Le miroir de Vénus, présenté par
Marilyn M.
Une émission sur
la femme
et ses tabous.
Je suis une femme. Je te fais coucou.
Oui, coucou à toi, la femme. Oui, coucou à vous, les femmes. Et les hommes qui les accompagnent. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour du 8 mars, le miroir de Vénus, et je suis d'autant plus heureuse de retrouver également Émilie Parent. Émilie Parent qui... Bonjour Émilie.
Bonjour Marilyn.
Émilie Parent qui va nous parler de son association, de l'association dont elle est membre, où elle est salariée.
Non, administratrice.
Administrative. Administratrice, donc l'association Pulse sur Marseille. Donc on va passer toute l'émission à décrire ce que vous faites, donc plus précisément l'éducation à la sexualité et comment vous travaillez sur ce sujet.
Avec plaisir.
Oui, hein. Je crois que ça va être le but de cette émission, de promouvoir le plaisir. Mais tout d'abord, j'ai entendu et j'entends souvent le 8 mars, la journée de la femme. Mais pourquoi qu'une seule journée? Il faudrait que ce soit toute la journée, quoi, toutes les années, tous les jours de l'année. Je vais y arriver. Oui, pourquoi cette fête internationale des femmes? Alors, il y a un site très sympa qui s'appelle 8mars.info. Et là, vous allez trouver toutes les infos. Donc, moi, je vais vous faire un petit résumé qui vous dit qu'effectivement, au début du XXe siècle, des femmes de tout pays s'unissent pour défendre leurs droits. Alors, la légende veut que l'origine du 8 mars remonte à une manifestation d'ouvrières américaines du textile en 1857. Événement qui n'a en réalité jamais eu lieu. Jamais, never. En revanche, l'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières où les nombreuses manifestations de femmes réclament le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la Conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Jusqu'à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féminisme des années 70 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. La journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Donc, moi, ce que je retire, c'est l'occasion de faire un bilan. Et c'est pas plus mal, quoi, une journée pour bien réfléchir sur tout ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'il y a après à réfléchir toute l'année sur le constat qu'on a fait ce jour-là. Donc c'est très bien. Alors, Émilie Parent, donc tu es éducatrice à la sexualité.
Oui, alors j'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc j'ai fait mon diplôme de manière classique comme tous les autres éducateurs. Et ensuite j'ai travaillé dans une association qui s'appelle l'Amicale du Nid auprès de personnes prostituées. Où là, les questions de sexualité m'ont un peu traversée et où j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Et suite à ça, je me suis formée à l'éducation à la sexualité à l'Université de Toulouse, qui propose un diplôme universitaire de formation en éducation sexuelle. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui suite à ce diplôme et de rencontres avec d'autres personnes, s'est mis en place l'association Pulse.
Et dans cette formation à l'éducation à la sexualité, vos enseignements, vos matières sont de quel sujet? C'est sur la psychologie, l'anatomie?
Alors c'est vraiment remettre la sexualité dans tout son concept, à la fois avec des approches sociologiques, à la fois avec des approches historiques, anthropologiques, biologiques, physiologiques, même neurologiques. J'en ai sûrement oublié, au niveau légal, moral. Donc vraiment reprendre toutes les dimensions de la sexualité et aussi de l'être humain. Et traverser ces différentes dimensions avec tout ce qui nous construit en tant qu'être, nos représentations, nos rapports sociaux, et voilà, traverser tout ça et en faire une approche intégrative de la sexualité.
Éduquer, c'est redonner le pouvoir d'agir. Ça, c'est un de vos slogans.
Oui.
Sur votre plaquette.
Oui, ben après c'est aussi moi ce que je, enfin c'est aussi ma conception de l'éducation au sens large. Après le domaine dans lequel on a envie de se placer, c'est aussi parce que on a considéré que aujourd'hui, en tout cas en France, c'est un sujet qui est assez peu, qui est abordé, mais en termes éducatifs assez peu. Après, on en parle beaucoup ces derniers temps, justement, autour des questions de l'égalité homme-femme. On en parle aussi beaucoup en termes de réduction des risques par rapport aux grossesses non désirées, par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Après, en termes d'éducation au plaisir et d'éducation à la vie avec les autres, on en parle finalement assez peu, et ça reste, on peut en parler, mais ça reste assez tabou et puis assez difficile de sortir de ses propres représentations. Finalement, c'est assez peu, peut-être institutionnalisé, entre guillemets. Après, je sais pas s'il faut l'institutionnaliser, mais.
En parlant d'institution, justement, je vais vous nommer ce qui est annoncé au niveau de la législation, au niveau de l'OMS, qui définit le concept de santé sexuelle pour la première fois en 1975, à partir de la définition de la santé. Alors, charte de l'OMS de 1946, qui dit « La santé sexuelle est l'intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué, de façon à favoriser l'épanouissement et la mise en valeur de la personnalité humaine, de la communication et de l'amour. Le droit à l'information sexuelle et le droit au plaisir sont des valeurs inhérentes à ce concept. » Après, donc ça c'est en 46, à partir de la charte de l'OMS de 46 en 75. En 2002, l'OMS en donne encore une nouvelle définition, donc ça évolue. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal, relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences plaisantes et sécuritaires sans coercition, discrimination et violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de chacun.
Voilà, donc tout à l'heure, tu me posais la question dans notre formation, quelle était l'approche finalement. L'approche, elle est basée sur cette définition-là. C'est d'ailleurs suite à cette formation que moi j'ai regroupé voilà, ces informations. Et voilà, on se base vraiment là-dessus. Et après, ben, on va plus en profondeur dans chaque sujet pour pouvoir amener la réflexion, la prise de recul sur ses propres expériences, sa propre sexualité, ses propres représentations. et vraiment pouvoir apporter ces outils-là aux autres. Et...
Oui, ça sort donc complètement du psychologique, donc un peu non médicalisé où on a une problématique, et ça se rapproche de l'anatomique. Et ça se rapproche vraiment sur une éducation populaire, sur quelque chose de sociétal, vraiment. Quoi. C'est vraiment, vous prenez l'individu, non pas comme ayant une problématique, mais comme ayant des outils qu'il peut utiliser, quoi, des outils, entre guillemets. Je veux dire, des...
En tout cas, c'est pas l'individu avec des problèmes,
voilà.
Avec des problématiques, mais pas avec des problèmes. On a tous des problématiques, on a tous des questions, on a tous des manières de se construire différentes, et tous et toutes d'ailleurs. Mm-hmm. Et du coup, c'est vraiment partir de là, partir de l'histoire de chacun, là où chacun et chacune en est, de sa propre histoire, de ses propres questionnements, et peut-être amener des clés que les personnes peuvent avoir déjà, mais qu'elles peuvent aussi ne pas avoir perçues. Donc, amener plein de clés différentes pour que chacun et chacune puisse choisir les siennes. Et du coup, c'est vraiment pas apporter des réponses, mais plutôt apporter, voilà, ça, des sortes de clés où chacun va faire, après, chacun et chacune va faire son cheminement dans ces clés-là et avec ces clés-là et son parcours.
On revient donc à cette association. Alors, une association 1901. Les objectifs avant tout.
Alors, les objectifs, donc ils sont comme tu disais tout à l'heure, donner l'objectif premier, c'est vraiment de donner ou de redonner, parce que on a tous eu une éducation, peut-être plutôt parler de redonner le pouvoir d'agir, tant au niveau individuel que collectif. Ça, c'est assez important pour nous. Du coup, il consiste vraiment à se donner un peu ce que je disais en parlant de clés, c'est une grille de lecture de la sexualité, notamment en termes de rapports sociaux, que ce soit de genre, mais tout rapport sociaux. C'est aussi baser la sexualité sur, se permettre de baser la sexualité sur des relations éthiques et réciproques, donc en faire un lieu de pratique démocratique. Pour nous, c'est important aussi cet aspect-là. On a envie de pouvoir affirmer qu'en faisant de l'éducation à la sexualité, on fait aussi de la politique, parce que comme toute forme d'éducation, elle vise la transformation sociale. Donc voilà, c'est une forme aussi de politique. Et en termes d'objectifs également, on a envie de permettre à chacun et chacune de se positionner par des choix libres, éclairés et autonomes. Et puis, réduire les inégalités dans l'accès à une sexualité épanouissante et émancipatrice.
Oui, alors ça, c'est des beaux concepts, mais dans les faits, comment ça se présente ?
Donc là, l'association, elle est assez récente. On a travaillé dessus pendant un an avant de pouvoir la déclarer. Quand je dis « on », c'est à l'origine, on était deux. Donc moi, éducatrice spécialisée, et Étienne, qui est lui issu de l'éducation populaire. Et donc, on a aussi voulu faire une association beaucoup plus... Enfin, comme les... une association avec une démarche collective. Donc, on a aussi regroupé du monde autour de nous. Donc c'était important pour nous d'avoir un CA réel, pas juste deux personnes pour faire une association. Donc il y a 5 personnes au conseil d'administration, on fonctionne en collégial. Mm-hmm. Et donc suite à ça, s'est mis en place des groupes de parole, donc qui fonctionnent un jeudi sur deux, de 19h à 22h, ouverts à tous et toutes.
Sur Marseille,
c'est ça. Pour l'instant dans les locaux de l'APAS, qui est au boulevard National. Et des animations dans la rue. On a déjà fait un porteur de parole une fois, en fin novembre, et on en refait un là le 22 mars.
D'accord. Donc, vous êtes une association, il y a quand même pas mal d'autres associations, quoi, pas mal, non. On va dire que l'éducation à la sexualité, c'est quand même un secteur nouveau. Ça fait 10 ans, on va dire, depuis
En fait, il y a eu vraiment le moment de où on s'est plus préoccupé du sida, où du coup il y a eu ça s'est beaucoup développé à ce moment-là en termes de prévention, où du coup on a parlé contraception et surtout protection. Après, suite à ça, il y a eu on s'est rendu compte que la prévention ça pouvait pas, enfin ça pouvait, mais ça suffisait pas. Que les choix des personnes, les pratiques n'étaient pas forcément remises en cause, même s'il y avait une prise de conscience du risque,
du danger,
il y avait, mais en termes de changement de pratique, on s'est rendu compte que l'éducation était quand même assez importante. Alors il y a aussi un peu un double mouvement entre les acteurs de cette éducation-là, de cette prévention, qui se sont mis à vraiment penser les choses en termes éducatifs, et puis les financeurs qui restent sur des objectifs concrets, c'est-à-dire réduire
santé.
Réduire les coûts au niveau de la santé et les coûts sociaux, quoi.
On a dans l'éducation nationale des orientations sur l'éducation à la sexualité, qui est une composante de la construction de la personne. Alors je cite l'orientation nationale et les objectifs de l'éducation à la sexualité, de la construction de la personne et de l'éducation du citoyen à l'école, au collège et au lycée. Elle vise à permettre aux élèves d'adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale. Ils le disent. Qu'est-ce que l'éducation à la sexualité ? L'école a, dans le cadre de sa mission éducative, une responsabilité propre vis-à-vis de la santé des élèves et de la préparation à leur future vie d'adulte. Son action est complémentaire du rôle premier joué par les familles dans la construction individuelle et sociale des enfants et des adolescents dans l'apprentissage du vivre ensemble. L'éducation à la sexualité y contribue de manière spécifique en lien avec les enseignements. Elle est une démarche éducative qui répond à la fois à des questions de santé publique, grossesse précoce non désirée. Alors là, ça rejoint ce que tu dis quand on est sur la prévention des risques. Donc, grossesse précoce non désirée, infection sexuellement transmissible, dont le VIH, le sida. À des problématiques concernant aussi les relations entre garçons et filles, les violences sexuelles, la pornographie ou encore la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes. Alors effectivement, tout ça, c'est des points sensibles, très très sensibles, mais effectivement, corrélés à l'éducation à la sexualité, à aucun moment on parle de plaisir.
À aucun moment on parle de plaisir. Après, le début de ce que tu as lu, il y a quand même des choses plus larges que juste les problèmes sociaux auxquels ils ont envie
de répondre.
Donc il y a quand même une
vision.
Il y a quand même une vision, il y a quand même des choses qui changent.
Au niveau de la mentalité.
Voilà.
Au niveau des mentalités, oui.
Voilà, ces derniers temps.
Elle est de 2003, cette loi.
Voilà. Après, au niveau de l'engagement, ce que j'ai envie de dire, l'engagement politique, c'est-à-dire là où on met de l'argent, les choses sont un petit peu différentes dans le concret, mais on n'en est pas encore. Parce que même les circulaires de l'éducation nationale, elles sont donc 2003. Aujourd'hui, ce serait intéressant de faire un bilan de ce qui est appliqué ou pas. En termes de... Enfin, qu'est-ce qui est proposé aux élèves ou pas. Après, il y a quand même un certain nombre de choses de proposer. Il ne faut pas être que dans le négatif.
Si. Il y a des choses de proposer, des choses de faites par des structures qui sont, entre autres, le Mouvement français pour le planning familial, où là, j'ai assisté une fois à un théâtre forum extrêmement intéressant sur la sexualité, plus précisément sur le genre. Il y a le Comité départemental d'éducation pour la santé 13, donc le CODES. Il y a le Centre régional d'information et de prévention du sida, le CRIPS. Et puis après, il y a des compagnies de théâtre qui ont des problématiques sur la sexualité, sur le genre, et qui sont invitées par les collèges et lycées à venir jouer pour pouvoir en discuter. Donc c'est, y a effectivement des structures.
Après, excuse-moi, je te coupe, juste parce que ça me fait penser ce que tu dis, c'est là on parle spécifiquement de l'éducation, enfin en tout cas de l'école ou du collège ou du lycée, donc on s'adresse à une population en particulier. Nous c'est vrai qu'à Pulse on a envie vraiment d'élargir ces possibilités-là et de sortir de un peu ce qu'on disait tout à l'heure du concept problème. On pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un problème pour se préoccuper de la sexualité et du plaisir qu'on peut en retirer, qu'elle soit active ou pas, qu'on ait choisi de la vivre avec d'autres ou pas, qu'on ait choisi de, enfin voilà, quels que soient les choix qu'on fait. Et du coup, c'est vrai que ben on a aussi envie de s'adresser à des gens qui, dans un premier temps, ne se sentiraient pas forcément concernés par ces questions parce qu'ils ne font pas partie d'un public, comme on dit,
cible.
Voilà, cible ou prioritaire. Enfin, c'est pas des jeunes, c'est pas
des homosexuels.
C'est ça. C'est pas des gens malades, ce n'est pas des gens, enfin voilà. Et du coup, de pouvoir s'adresser aussi à ces gens-là, donc d'où l'importance pour nous de commencer par mettre en place des groupes de parole, parce que donc tu me demandais tout à l'heure si j'étais salariée. Non, je le suis pas parce qu'on n'a pas les fonds aujourd'hui pour me salarier, mais donc je le fais bénévolement. Et donc ça, c'est quelque chose de relativement facile à faire puisque moi, je suis formée pour aussi. Après, on a aussi envie de développer plus d'actions et vraiment de pouvoir s'ouvrir à la fois au public cible parce qu'on n'a pas envie de pas avoir d'action là-dedans non plus, mais aussi aux gens qui n'ont pas forcément accès à ce genre de dispositif en fait.
Dispositif de réflexion réfléchir sur la sexualité. On va continuer d'en parler, mais on va faire une première pause musicale. Avec, là, je vais vous mettre aujourd'hui Anne Sylvestre, La faute à Ève.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh ben non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève. Rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements: manque une pomme à l'inventaire. Qui l'a volé? C'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit: mais non, papa, c'est moi. Mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il n'avait rien sur le dos. Ève a dit: attends, je cueille des fleurs. C'était trop petit, fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule. Avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand papa pour tenter de la chair tendre, si même il va jusque là. Yalalalalala, yalalalalala. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Pour ce repas, c'est pique qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne.
Ah Le retour du miroir de Vénus en cette journée de la femme le 8 mars 2014. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Parent, qui est éducatrice à la sexualité pour l'association Pulse à Marseille. Alors, on était en train de discuter sur effectivement là où vous vous positionnez différemment par rapport aux structures qui existent déjà sur l'éducation à la sexualité, donc planning familial, CREPS, CRIPS. Bon, moi j'insiste quand même pour faire une petite parenthèse en disant que ces associations qui sont quand même reconnues, donc c'est pour ça qu'elles sont acceptées aussi, parce que justement c'est dans les collèges, lycées, quoi, c'est auprès des enfants, donc il faut quand même une... Ils attendent des professionnels, des garanties, voilà, des garanties. Donc ont de moins en moins de subventions pour justement ces sujets-là qui nous semblent importants aussi pour ces associations, parce que, comme tu le disais, la problématique, il y a eu effectivement de beaux textes de loi, mais après, il faut mettre les moyens. On en revient toujours à ça, malheureusement. Donc vous, par rapport à ça, vous dites, il y en a marre. Nous, on va ouvrir, on va monter cette association pour enfin ouvrir un champ sur l'éducation à la sexualité. Mais là où je voudrais revenir, c'est qu'est-ce que vous entendez par l'éducation? Qu'est-ce qu'il y a de différent que
que
sans jeu de mots, hein.
Différent par rapport à
L'éducation. Pourquoi la sexualité doit être une éducation? Pourquoi, par exemple, si je deviens mère, je dois éduquer mon enfant à la sexualité?
Alors, il nous semble en tout cas que la sexualité, elle fait partie de la vie, elle traverse tout le monde, quelles que soient les réponses les réponses qu'on se donne à cette question-là. C'est la sexualité, c'est quand même un sujet universel pour tout le monde.
Mais tabou.
Alors tabou en France en tout cas, dans notre société,
oui.
Elle n'est pas forcément partout justement, nous c'est un petit peu ce qu'on vient questionner aussi, remarquer et faire remarquer, c'est que c'est bien quelque chose qui nous appartient de la vivre comme ça, et du coup si c'est quelque chose qui nous appartient de la vivre comme ça, c'est quelque chose qui se transmet, et quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui s'éduque. Du coup, c'est un petit peu pour ça qu'on considère la sexualité comme un langage qui s'apprend et se construit. C'est un petit peu ce qui, pour répondre à ta question sur l'éducation, pourquoi l'éducation? Parce que la sexualité, elle parle de notre rapport au monde, de notre rapport à soi, de notre rapport à l'autre. Et a priori, c'est quelque chose, ça, qui se construit avec la vie et du coup qui nécessiterait une éducation.
Une éducation, donc qu'entend-on par l'éducation? Est-ce transmettre des savoirs, transmettre des expériences, être un conseilleur, être...
Alors c'est plus transmettre des savoirs effectivement. Après c'est
les savoirs sur quoi?
Après c'est pas un type de savoir en fait. Ce qui est important pour nous c'est de pouvoir un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la définition de l'OMS, c'est vraiment de transmettre différents types de savoirs et également des savoirs sur lesquels nous par exemple personnellement qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser ou des choses comme ça, mais en tout cas que chacun puisse avoir l'accès à l'information, mais ne pas s'arrêter non plus au savoir. Pour moi, l'éducation, c'est des savoirs, mais c'est aussi des savoir-faire et des savoir-être. Ça va jusqu'au savoir-être, en fait, l'éducation. Et c'est pour ça que au-delà des groupes de parole, les interventions qu'on a envie de faire, les ateliers qu'on a envie de proposer, ils seront sur un petit peu sur le même type que les groupes de parole, sauf qu'il y aura en tout cas dans un premier temps, pas forcément une expression nécessaire de la part des personnes qui participeront, mais c'est quelque chose qui s'inscrira dans le temps, parce que pour aller jusqu'au savoir-être, il faut laisser le temps de cheminer, laisser le temps d'assimiler ses savoirs, d'expérimenter ses savoir-faire et aller jusqu'au savoir-être. Et savoir-être, c'est déterminer qui on est, c'est déterminer nos choix, nos valeurs.
Tout en... Donc avec l'axe principal, qu'on reste et qu'on est un être sexué. Donc c'est une des portes ou que tout partirait de là ou ce n'est qu'une, qu'une porte c'est-à-dire qu'en tant qu'être sexué, puisqu'on est sexué, on doit apprendre à ce qu'est être sexué, à ce qu'est être ce corps, l'incarner, savoir quelles sont nos limites au niveau du plaisir, de la jouissance ou de la douleur, et ce qu'elle annonce dans la rencontre à l'autre, ce que l'autre perçoit de cet être sexué que nous sommes, et de ce que nous, on perçoit de l'autre à travers notre être sexué, qui reste quand même une rencontre de genre.
Ça,
ou pas.
Ça peut être une rencontre de genre. Après, moi, il me semble que on est tous des individus différents, tous et toutes, qu'on soit homme ou femme. Après, il y a peut-être des choses qui, on a en tant qu'homme et en tant que femme, on a un rôle, on a une place dans la société.
Oui.
Après, ce rôle et cette place, chacun et chacune les joue ou les prend ou les laisse à sa manière et avec ses choix. Et c'est un petit peu ça, en fait, qu'on a envie d'animer et peut-être...
De déconstruire.
Voilà, déconstruire, ça peut, mais c'est
justement
pas obligatoire, parce
dessus.
Que déconstruire, ça peut aussi... pourquoi déconstruire des choses qui sont déjà construites?
Non,
on peut questionner
déconstruire,
ça.
Oui.
Mais en tout cas, prendre du recul sur ces constructions, justement, pour voir si on a envie de déconstruire parce qu'on se sent pas finalement si bien que ça avec ces constructions-là, ou voir si justement cette construction, elle peut aller plus loin, ou elle peut s'enrichir d'autres choses, d'autres éléments. En fait, c'est ça. Après, tu disais, est-ce qu'en tant qu'être sexué, on doit faire ça? Je ne sais pas si on doit, en tout cas, on peut. Et nous, c'est cette possibilité-là qu'on a envie de donner.
Du pouvoir.
C'est ça.
Pouvoir d'avoir le choix.
C'est
aussi.
Ça.
C'est aussi sortir de ces clichés, justement, sur la sexualité. Soit pas assez performante, soit trop performante, soit etc etc, et aussi des rôles que chacun se donne en tant qu'homme ou en tant que femme dans sa sexualité, c'est-à-dire aussi la construction culturelle et sociale qui est faite justement quand on est sur le genre homme, l'homme se comporte de telle façon, l'homme doit obligatoirement pénétrer la femme pour être un homme, pouvoir vraiment faire l'amour, voilà, ils ont fait l'amour, quoi, ils pensent que faire l'amour, c'est obligatoirement que la pénétration, ou la femme, la même chose, faire l'amour, c'est aussi être pénétré, c'est déconstruire tout ça, c'est réfléchir sur des choses comme ça.
C'est un petit peu réfléchir, à ses choix, justement, c'est parce que finalement, ce que tu dis, l'homme, ça se résumerait entre l'homme pénétrant, la femme pénétrée, entre guillemets. Ça, c'est a priori, c'est des concepts. Après, dans l'action, je sais pas si c'est dans l'action, mais en tout cas dans l'interaction, dans les relations, est-ce que c'est toujours l'homme qui a cette place d'homme? Est-ce que c'est toujours la femme qui a cette place de femme? Ça, je ne sais pas. Et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça qu'on a envie de réfléchir et d'y apporter des éléments pour que chaque homme et chaque femme puisse trouver sa place dans ces relations-là et qui est quelque, enfin, qui est une rencontre qui puisse se faire où chaque femme ensemble, enfin, peu importe qu'on soit un homme et une mm-hmm. femme en fait, mm-hmm. c'est de trouver sa place dans ces conceptions là qui sont celles de la société, dans ces conceptions qui sont celles de nos amis, de nos familles, mm-hmm. Et puis dans notre propre conception qu'on s'est construit avec tout ça. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on appelle les trois niveaux du contrôle social, et c'est quelque chose qui, par exemple, qu'on utilise beaucoup dans nos interventions.
Oui.
Ce concept-là, parce que c'est trois niveaux qui discutent un petit peu en nous à chaque fois qu'on se retrouve face à une situation, à chaque fois qu'on la vit, qu'on fait des choix. Mmh. Et voilà, c'est un petit peu repérer comment ça interagit en nous, les paradoxes qui peuvent exister, et du coup comment nous on peut se situer et être au mieux avec cette situation là. Vraiment, enfin, un des objectifs de Pulse, c'est un petit peu ça, c'est voilà, comment chacun peut se positionner au mieux avec tous les paradoxes qui peuvent nous traverser.
Puisse se sentir libre tout en étant influencé.
C'est
même.
Ça. Mais après, voilà, c'est un petit
parce
peu.
Que c'est difficile de.
C'est ça le concept de liberté qu'on a envie nous de partager. C'est la liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment choisir tout ce qu'on fait en fait. Ouais. Voilà.
C'est une belle parole. Donc on va reprendre après. Mais en attendant, on va écouter Émilie Marche qui va nous chanter la rime orpheline.
Une rime féminine s'est glissée entre deux épines comme un pétale de rose. C'est un E à la rime, une lettre qui n'est anodine qu'à la surface des choses. Car si je ris féminine, c'est d'une façon plus intime. Qui sait à quoi je m'expose? Et nos lignes à la rime ne sont qu'on s'y abîme, je te réponds qu'on s'y égratine. Mais pour une bien jolie cause. Et cette rime féminine, je la dépose en sourdine sur des paupières écloses. À des rimes que l'une sur l'autre s'imprime, mais rien ne les y prédispose. C'est qu'elles savent libertines, qu'elles sont bien plus féminines lorsqu'elles se superposent. Si tu dis qu'on s'y abîme, je te réponds qu'on s'y égratine. Mais pour la plus jolie des causes. Sur des paupières. gouttières écloses.
Et oui, c'était Emily March, la rime orpheline, que vous pouvez retrouver sur son album qui a le même titre, La rime orpheline, et qui est dans les bacs maintenant depuis mars 2013. Ça va faire un an. Alors, le miroir de Vénus, aujourd'hui sur l'éducation à la sexualité, avec Émilie Parent, qui est membre et éducatrice à la sexualité de l'association Pulse à Marseille. Je voudrais revenir avant de repartir sur notre sujet, mais de toute façon c'est en rapport, mais je voudrais lire un petit texte de Monsieur Sigmund Freud. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une seule bonne raison pour refuser aux enfants les explications sexuelles qu'exige leur soif de savoir. Certes, si l'intention de l'éducateur est d'étouffer le plus tôt possible toute tentative de l'enfant de penser indépendamment au profit de l'honnêteté si prisée, rien ne l'y aidera mieux que de l'égarer sur le plan sexuel et de l'intimité sur le plan religieux. Les natures les plus fortes résistent bien sûr à ces influences, elles deviennent rebelles à l'autorité des parents et plus tard à toute autorité. Je tiens pour le progrès le plus significatif dans l'éducation de l'enfant, le fait qu'en France, l'État a introduit à la place du catéchisme un livre élémentaire qui donne à l'enfant les premiers renseignements sur sa position civique et sur les devoirs moraux qui lui incomberont un jour. Mais cet enseignement élémentaire est fâcheusement incomplet en ce qu'il ne cerne pas aussi le domaine de la vie sexuelle. C'est là une lacune que les éducateurs et les réformateurs devraient s'efforcer de combler. Et c'est signé Sigmund Freud et c'était en 1907. Donc les éducateurs s'efforcent de faire bouger les lignes, je dirais. Donc en tout cas, c'est ce que vous essayez de faire avec Pulse. Et ma grande question était en quoi l'éducation à la sexualité est un acte social. Pourquoi ?
Eh bien, si on reprend ce que tu viens de lire de M. Freud, lui, il parle bien justement de position, par exemple, il parle de position civique. Parce que l'éducation, c'est, comme on disait, c'est de donner le pouvoir d'agir.
Oui.
Donc ça c'est vraiment un acte social, un acte citoyen, de donner le pouvoir d'agir. Ensuite, il y a, si on reprend aussi ce qu'il disait, il parlait de penser indépendamment. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on parle de choix libre, éclairé et autonome. Oui. Il me semble que ça, c'est aussi un acte social de pouvoir donner cette faculté, enfin donner cette faculté-là. On n'a pas la prétention de donner ça, en tout cas de donner des clés pour se permettre, pour permettre aux personnes d'avoir cette faculté-là. Après, il y a un acte social parce que, comme je le disais précédemment, la sexualité, elle parle de notre rapport au monde, de notre rapport à soi et de notre rapport à l'autre. Elle parle de rencontres, même si c'est des rencontres qui ne se font pas. Et il me semble que l'acte social, il se...
Le premier, on va dire, l'un des premiers actes sociaux, c'est quand ça. Même la rencontre.
C'est ça, il se retrouve là, et du coup, voilà, de savoir ce qu'on fait de cette rencontre, comment on se positionne, quel choix on fait, qui on est dans cette rencontre, quel est notre rôle, quelle est notre place, voilà. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel autre sujet.
Oui, bien sûr.
Mais il nous a semblé que la sexualité n'est pas un sujet qui est beaucoup pratiquer, que ce soit dans le domaine de l'éducation spécialisée, que ce soit dans l'école, que ce soit aussi avec les parents qui sont pas toujours très à l'aise à parler de sexualité avec leurs enfants. Et du coup, nous, on a eu envie de prendre cet objet-là qui est la sexualité pour en faire une porte d'entrée de l'éducation en général et du coup de cet acte social qui est l'éducation.
Oui, et en même temps, donc ça viendrait à communiquer en un sens sur la sexualité.
Alors, communiquer, c'est un début, en fait. Mm-hmm. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure au niveau des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Communiquer, ce serait apporter des savoirs, donner de l'information. Après, l'éducation, pour moi, ça va un petit peu plus loin. C'est aussi laisser le temps d'assimiler ces informations, d'en faire quelque chose pour soi, de choisir quelle information on prend et qu'est-ce qu'on en fait. Et vraiment accompagner aussi à ça. Qu'est-ce que les personnes font de cette information? Qu'est-ce qu'elles ont envie d'en faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent en faire? Et si elles ont envie d'en faire quelque chose de différent de ce qu'elles peuvent en faire aujourd'hui, peut-être de donner d'autres clés avec ces informations-là, communiquer sur d'autres choses, apprendre d'autres choses qui permettent de faire quelque chose de différent de ces informations, de ce qu'on pourrait faire si on donne l'information sans accompagnement ultérieur.
Si je suis un parent, je peux venir. C'est quel genre de. Parce qu'en fin de compte, on en vient toujours quand même à une problématique. Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, une problématique, c'est pas un problème.
C'est ça.
Voilà, c'est qu'on a tous des problématiques. C'est qu'on est tous, malheureusement, quoi, ou heureusement, parce que ça, c'est toujours ma grande question à savoir. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution et mouvement. Il se passe toujours quelque chose. Et par moments, il y a quelque chose qui coince. Moi, je dirais que les problématiques, c'est quand ça coince, peut-être.
Je ne sais pas si c'est quand ça coince. En tout cas, c'est quand ça se questionne.
Voilà, quand il y a questionnement. Donc quand ça...
Si ça, enfin, il peut y avoir questionnement sans que ça coince. C'est juste...
Aussi,
il me semble qu'une problématique, c'est quelque chose qui vient se questionner quand on prend un petit peu de recul. Après, on n'a pas forcément toujours besoin de recul. C'est bien aussi quand la vie est un long fleuve tranquille de temps en temps.
Oui.
Mais peut-être qu'on est des êtres de pensée. Mm-hmm. On est des êtres avec des histoires. On nous raconte des histoires depuis qu'on est tout petit. Donc, il me semble qu'on se raconte aussi des histoires. Mm-hmm. Et les problématiques, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est prendre un petit peu de recul avec cette histoire et de se dire, tiens, pourquoi je me raconte cette histoire à ce moment-là? Et est-ce que je suis bien à la place que j'ai envie d'être dans cette histoire? Et si c'est le cas, ben tant mieux. Et je continue comme ça. Et du coup, je continue à mettre en œuvre ce que je mettais en œuvre jusqu'à maintenant. Mais si c'est pas le cas, ben quels sont mes outils pour changer un petit peu l'histoire, le cours de l'histoire?
Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que justement vous placez. Par exemple, quelqu'un qui pourrait se dire, tiens, je vais voir un psy, et les psys sont ça fait toujours, quoi, c'est très bien, une thérapie, mais il y a aussi l'alternative de l'éducation à la sexualité, l'éducation populaire, parce que justement, vous prenez les choses différemment, quoi, l'angle est, on va dire, moi je dirais pluridisciplinaire, hein, parce
c'est ça.
Que... C'est au moins il n'y a pas de connotation sans dire que mais si malheureusement dans notre pays on est encore dans une connotation dès qu'on dit qu'on va voir un psy c'est qu'on a un problème c'est qu'on est malade donc au moins là il n'y a pas de connotation et vous pouvez parler en tout cas c'est un lieu d'écoute et de partage pour parler des problèmes de la sexualité voilà.
C'est ça. Et donc, tout à l'heure, je parlais des groupes de parole qui sont vraiment des lieux d'écoute et de partage.
Mais il se passe quoi dans ces groupes de parole sans... Qu'est-ce que vous voulez dire par groupe de parole? C'est un exemple? Vous lancez quoi?
Eh bien, jusqu'à maintenant, on a travaillé bien sur les rapports de genre dans la sexualité, justement. Mm-hmm. Ça a été notre premier thème.
Oui.
Le deuxième thème, c'était l'accès au plaisir par la connaissance de soi, masturbation ou pas.
Mais
voilà. Et juste pour finir, le troisième thème, c'était l'expression du désir. Et donc, au sein de ces groupes de parole, en fait, on part souvent d'outils issus de l'éducation populaire, des petits exercices ou des questionnements, des choses comme ça. Et puis, on chemine soit avec la parole des gens qui sont présents, soit oui. aussi avec autour d'outils que moi, je peux apporter et du coup, d'expérimenter ces outils-là, de voir un petit peu ben, en quoi ça nous parle, en quoi ça nous parle pas et ce qu'on pourrait en faire, etc. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc il y a à la fois ces groupes de parole qui a un aspect collectif où du coup il va y avoir les échanges de paroles entre les présents et les présentes vont pouvoir entendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça nous parle aussi de notre propre histoire et nous fait un petit peu cheminer sur notre propre histoire. Mais il y a aussi pour les personnes qui auraient envie de quelque chose d'un peu plus spécifique, un peu plus individuel, on propose aussi depuis assez peu de temps de l'accompagnement individuel. Donc, il y a un petit peu sur le même principe, sauf que c'est juste une personne qui est en demande de ça vis-à-vis avec moi, voilà, sous forme d'entretien.
D'accord. Donc, plusieurs formes.
C'est ça. Ou du coup, à ce moment-là, c'est plus moi qui joue les différentes... qui va mettre un petit peu en mots ce qui se passe dans les groupes de parole. C'est plutôt moi qui vais l'incarner et pour permettre à la personne de cheminer aussi.
D'accord. Mais comment vous faites pour les gens et ces informations que vous existez? Comment les gens sont déjà venus au groupe de parole?
Alors ça s'est fait beaucoup par le bouche à oreille dans un premier temps. Aujourd'hui, on a mis en place un site internet qui est pas tout à fait fini, mais qui est quand même accessible. C'est www.asso-du6pulse.fr. Voilà, et donc il y a ces informations-là, il y a un numéro de téléphone aussi qui est disponible pour me joindre et pour avoir les informations.
D'accord.
Il y a aussi les animations qu'on fait dans la rue, par exemple le 22 mars, on va se retrouver l'après-midi.
Le 22 mars.
Oui, c'est ça, on va se retrouver devant l'Alcazar pour faire un porteur de parole.
D'accord.
Donc à Belzunce, on sera disponible pour répondre aux questions et puis aussi pour vivre une animation dans la rue autour de la sexualité.
D'accord.
La dernière fois, on a posé la question, en fait, on met une question sur une banderole. La dernière fois, on m'a demandé pourquoi je fais l'amour. Donc voilà, c'était inscrit en grand, sur une grande banderole devant l'Alcazar. Les gens passaient et en dessous de la banderole, il y avait toutes les réponses possibles, toutes les réponses de toutes les personnes qui avaient bien voulu écrire leurs réponses. Ça fait une multitude de réponses. Ça fait que les personnes qui n'ont pas envie de s'exprimer peuvent quand même avoir accès aux multitudes de réponses possibles à cette question et se questionner sur leur propre question, leur propre réponse, pardon. Et puis que ceux qui ont envie de partager ça puissent le faire. C'est une sorte de groupe de parole géant, on va dire.
Ok. Ça, c'est intéressant. À voir. Surtout, moi, je suis très curieuse de lire ce que les gens... Et les gens, quand ils mettent des mots, ils lisent les mots des autres.
Ah, bien sûr, bien sûr.
On est dans la curiosité, là.
C'est ça. Mais c'est exactement le but de l'intervention. Et ça n'a pas été encore le cas parce qu'on a plutôt travaillé sur le site internet. Mais je vais mettre en ligne les dernières... Les réponses en fait qui ont déjà eu lieu à la première question, on va prendre des photos, des réponses et les mettre en ligne, etc. Donc c'est pas encore fait, mais c'est en cours. Voilà.
Là, c'est mon côté voyeur qui ressort. Donc.
Propos, si des gens sont intéressés par l'association et ont des compétences, que ce soit sur internet, sur l'animation, sur les questions de sexualité, sur n'importe quoi,
il nous faut de l'aide.
il nous faut, je sais pas, mais en tout cas, on a envie nous de faire quelque chose de collectif. L'association est ouverte là-dessus et on est preneur de.
Ouverte à collaboration.
C'est ça.
Toute collaboration est bienvenue, comme on dit.
C'est ça.
Donc, Barbara va nous chanter une chanson de Monsieur Brassens, mais qui était dédiée aux femmes. Et quelle femme? La complainte des filles de joie.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas dans la rue, faire les 100 pas dans la rue, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement on a des corps, non seulement on a des corps, des œils de perdrix mais encore, des œils de perdrix mais encore. C'est fou ce qu'on use de grôle, parole, parole, c'est fou ce qu'on use de grôle. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant bien qu'on les cajole, parole, parole, faut pourtant bien qu'on les cajole. Qu'on leur fasse la courte échelle, qu'on leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'on les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'on les vole. On est méprisé du public, on est méprisé du public, on est bousculé par les flics, on est bousculé par les flics, et menacé de la vérole, parole, parole, et menacé de la vérole. Bien que toute la vie on fasse l'amour, bien que toute la vie on fasse l'amour, qu'on se marie 20 fois par jour, qu'on se marie 20 fois par jour, là non c'est jamais pour notre fiole, parole, parole, là non c'est jamais pour notre fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole.
Et c'est pas tous les jours qu'on rigole quand on fait le trottoir. On va arriver à la fin de l'émission, donc. Moi, je veux vraiment rappeler donc Pulse, cette association qui est à Marseille. Évidemment, vous pouvez vous venir. On est d'accord. Vous pouvez faire des actions. Donc, est-ce que vous pouvez faire des actions dans les écoles, dans les associations, dans les maisons de quartier, dans tout ça? Vous êtes habilité?
Oui, enfin habilité. Oui. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé spécifiquement des publics.
Oui.
Moi, j'ai exprimé notre souhait de s'adresser à tout public.
Voilà.
Après, effectivement, nous, on a aussi cette volonté de proposer des actions, des interventions, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement à la sexualité dans tout lieu d'accueil. Que ce soit de personnes ciblées ou pas, voilà. Donc,
Ça peut être aussi des associations de parents. Moi, je trouverais ça très intéressant.
On a aussi envie de développer effectivement des ateliers spécifiques pour les parents, pour leur permettre, à la fois de réfléchir sur leur propre
éducation.
C'est ça. Mais à la fois eux pour une éducation.
Bien sûr.
Envers eux, mais également aussi pour les accompagner dans l'éducation de leurs enfants autour de ces questions-là.
Parce que c'est ça le principal. Malheureusement, là, on n'a pas encore le temps de développer, parce que ça, j'aimerais le développer au moins une heure encore après sur vraiment l'éducation, quoi, ce qui doit être transmis de parents à l'enfant, justement, sur la sexualité, aussi quelque chose d'extrêmement aussi important. Et là, je vais vous reparler d'un livre que j'ai adoré et que j'enjoins toutes les femmes à avoir ce livre entre les mains, surtout en plus si elles sont mères, pour pouvoir transmettre à leurs filles, mais à leurs filles. Donc, c'est le docteur Daniel Flomembone. Femme désirée, femme désirante, c'est pas compliqué. Femme désirée, femme désirante. Et je pense que ce livre, ce titre surtout, dit vraiment ce que toute la problématique, quoi. Femme désirée, tu seras désirante. Bon, donc éducation, des choses à transmettre, des choses extrêmement importantes que l'on pourrait, dont on pourrait parler encore pendant une heure, je pense. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Parce que ça, tu peux revenir. Je le sais, je le sens, que tu peux revenir nous parler peut-être plus avec plus d'approfondissement de tels sujets.
Bien sûr, c'est aussi des choses qu'on peut faire à Pulse.
Voilà, parce que là, effectivement, en une heure à peine de temps, il faut dire vos objectifs, vos valeurs, votre démarche. C'est quelque chose de très dense, donc c'est pour ça que j'enjoins tout le monde à aller sur le site, à venir vous rencontrer donc le 22 mars à Marseille. Et ne surtout pas hésiter à vous joindre pour vous poser d'autres questions et surtout pour rentrer en relation avec vous, pour pouvoir faire plein d'ateliers. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, plein d'ateliers. Mais de toute façon, je pense que tu auras l'occasion de revenir dans cette émission.
Hein ? Sûrement. Et on a un mail aussi qui est info@asso-pulse.fr, toujours le tiré du 6. Voilà, pour se tenir au courant, pour poser des questions, pour participer, pour ce qu'on veut.
Donc toutes ces informations sont bien sûr sur le blog de l'émission, lemiroirdevenus.free.fr, là où vous pouvez écouter toutes les anciennes émissions. Je vais finir par vous donner l'actualité. Si vous avez envie de sortir ce soir à Marseille, eh bien, non, pas à Marseille, ce soir, c'est à La Ciotat. Ce soir à La Ciotat, une artiste que je suis, que je soutiens depuis longtemps, qui est venue dans l'avant-dernière émission, je crois, je ne sais pas, c'était l'avant-dernière, Marie-Chour Amonja, pour son spectacle Chronique d'une croqueuse. Donc elle passe ce soir à La Ciotat, à la gare de l'Escalet, à 20h30. Elle sera également demain à Marseille, au Darla Mifa, à 19h. Donc voilà, pour les Marseillais. Et le vendredi 14 mars, à l'atelier de Mars de Sainte-Marguerite. Alors, Chronique d'une croqueuse, c'est vraiment un cabaret décalé et sensible qui met à l'honneur la femme et son désir. Donc, c'est une comédienne avec un musicien. Et donc, c'est touchant, c'est marrant. Et c'est surtout une belle expérience à vivre puisque c'est une artiste et une comédienne qui donne beaucoup, beaucoup. Et ce serait très dommage de passer à côté d'elle. Donc vous pouvez aller sur sa page Facebook où il y aura toutes les dates. Donc moi, je vous souhaite une très belle journée du 8 mars. Émilie, je te dis au revoir, mais à bientôt. À toutes, je vous enjoins toujours de vous aimer et de le dire autour de vous. Hein, ça, donc j'aime mon technicien que j'oublie régulièrement de remercier à chaque émission. Mon Fab, il fait tellement partie de tout. C'est comme si, tu vois, t'étais toujours là. Donc je voilà. En fin de compte, je crois que je t'oublie, mais non, je ne t'oublie pas. Donc belle journée, on va finir sur une très belle chanson, l'hymne des femmes de la compagnie Jolie Môme. À bientôt.
Au revoir.
Debout, debout. Le temps de la colère, les force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Tabou, tabou, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Tout en restant dans le monde du spectacle, artistes, techniciens.
Oh, 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 oh.
Le miroir de Vénus, présenté par
Marilyn M.
Une émission sur
la femme
et ses tabous.
Je suis une femme, 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 femme,